Merci Daniel. Donc ça continue la louange, c'est ça tu disais ? Qu'on a chanté la parole, mais là on va l'écouter. Alors je ne vais pas faire mon message en chantant, je vous rassure. Voilà, merci. En tout cas, bienvenue à chacun, chacune. Je suis très heureux d'être là. J'avais envie de changer mon message ce matin. J'avais envie de prêcher sur la bête et le faux prophète qui sont jetés dans l'étang de feu. Je ne sais pas si vous voyez pourquoi. Parce que je trouve que l'image est vraiment très bonne en ce moment, tellement on a chaud, n'est-ce pas ? La fournaise ardente. Maintenant, je vais rester sur mon idée initiale qui était de continuer sur le thème du sabbat, du Shabbat. Donc dimanche passé, pour ceux qui étaient là, j'avais parlé de Genèse, Dieu qui a institué le sabbat dès la création du monde, hein, où il est dit que Dieu se reposa. Hein, ce n'est pas un thème magnifique, ça. Je ne vais pas vous donner les 7 clés pour réussir, les 7 clés pour gagner ceci ou gagner cela. Aujourd'hui, je vais vous parler du repos. Est-ce que ce n'est pas un bon message, ça, hein ? On en a besoin du repos, hein, avec les pressions, tout ce qu'on vit. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Si Dieu a eu besoin de se reposer, qui n'a pas besoin de se reposer, combien plus forte raison, nous, on en a besoin ? Peut-être pour vous rappeler de quoi j'ai parlé dimanche passé. Donc j'ai parlé cette notion de ce septième jour où Dieu s'arrête. Parce que le repos, c'est pas le vrai mot à ce moment-là, c'est s'arrêter. Dieu s'est arrêté. Et le fait qu'il s'arrête de créer le monde en six jours, il libère un espace, il met des limites pour que l'histoire de l'humanité commence. D'ailleurs, on est toujours dans le septième jour parce qu'il n'y a pas de soir et de matin répété pour le septième jour. Donc on serait encore dans l'histoire où on peut entrer en relation avec Dieu dans ce septième jour dans lequel nous sommes encore aujourd'hui. Et c'était tellement important de comprendre qu'il y a deux notions dans le sabbat. Il y a le fait de cesser, de s'arrêter, mettre une limite, qui est le verbe Shabbat, justement. Et Dieu sanctifie ce jour, Kadosh, il le met à part. C'est-à-dire que c'est un jour où on s'arrête nos activités pour nous tourner vers Dieu, pour penser le monde, pour penser Dieu, pour communiquer avec Dieu, pour être en communion avec Dieu. Et on voit que dans l'Ancien Testament, ce sabbat a été respecté énormément. On voit que tout l'Ancien Testament, Dieu donne la loi au peuple d'Israël, donne la Torah, et cette Torah, le peuple essaye de la mettre en pratique. Et on voit qu'il n'y arrive pas. Et on voit que Dieu envoie des prophètes, c'est toute l'histoire de l'Ancien Testament, pour rappeler au roi, pour rappeler au peuple de revenir à la pratique de la Torah. Parce que la Torah est bonne, c'est la volonté de Dieu. La loi est bonne dans ce qu'il a donné, dans son essence. Et voilà que la loi de l'Ancien Testament est condensée dans quoi ? Comment on pourrait résumer toute la loi ? Je crois que vous êtes tous des théologiens confirmés ici. Hein, vous avez déjà entendu ce genre de choses. En quoi est-ce qu'on peut résumer la loi de l'Ancien Testament ? Toute la Torah. Vous savez que les Juifs en ont fait 613 commandements. Il y en a combien ? Si vous réduisez un peu les commandements de l'Ancien Testament, il y en a combien ? Il y en a 10. Mais vous savez que le mot commandement n'apparaît pas dans la Bible. Hein. C'est les 10 paroles de Dieu. Ce n'est pas les 10 commandements. Alors bien sûr qu'il y a ne pas, ne pas, ne pas, mais on a dit les 10 commandements, mais c'est les 10 paroles de Dieu. Vous savez que Jésus, en plus, c'est le Logos, c'est la parole de Dieu, donc c'est magnifique. Donc, je suis un peu parti un peu loin. Revenons donc à ces 10 paroles qui ont été dites dans l'Ancien Testament, qui ont été données. Est-ce que vous savez que ces 10 paroles sont répétées seulement 2 fois dans l'Ancien Testament ? Les 10 commandements, si on prend ce terme, sont répétés 2 fois. Est-ce que vous savez où ils se trouvent ? Enfin, un peu d'école du dimanche, là, potentiel. Exode et Deutéronome, oui, très bien. Et en fait, est-ce que vous savez une chose aussi par rapport à ces 10 commandements ? Est-ce que vous savez quel est le commandement qui prend le plus de place en termes de versets dans ces 10 paroles ? Celui qui a le plus de versets, c'est lequel ? Moi, je n'aurais peut-être pas pu répondre, hein. J'ai préparé. Donc, je suis un peu en avance sur vous. Non, c'est pas celui-là. Le premier ? Non, c'est pas celui-là. C'est quoi le thème du message aujourd'hui ? Mais oui, le sabbat, tout à fait. Oui, en effet, il y a, sauf erreur, j'ai noté ça quelque part, il y a 4 versets sur 14 en Exode 20, qui est la première version des 10 commandements, et il y en a 4 sur 15 dans Deutéronome 5. Donc 4 sur 14 et 4 sur 15. C'est celui qui revient le plus développé. Et ce qui est intéressant dans ce commandement, ce quatrième commandement, c'est que tous les 10 commandements sont semblables, les deux versions sont totalement semblables. La seule différence entre ces deux versions, de Exode 20 et de Deutéronome 5, diffère sur un seul commandement, c'est celui du sabbat. On va les lire ensemble, si vous êtes d'accord. Ah non, c'est pas tout à fait ça. Oh là, on avance! On avance! On est déjà aux annonces, voilà, c'est fini. J'ai juste appuyé sur la flèche avant. Ouais, c'est bon? Super. Ah non! Bah, tu peux passer, je te dirai quand passer, tu peux mettre la suite. Voilà, le Exode 20, on peut lire ensemble. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Tu peux mettre le suivant. Et là, on est dans Deutéronome 5. Observe le jour du sabbat pour le sanctifier, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a commandé. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni tout ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a commandé de célébrer le jour du sabbat. Quelle est la différence entre les deux ? Vous avez vu ? Ouais, l'Égypte. Alors, tu peux avancer ? Voilà ce qu'il est dit dans la première version du quatrième commandement. Il est parlé de s'arrêter comme l'Éternel s'est arrêté. Donc, c'est ce que j'avais parlé la dernière fois. C'est la dimension créationnelle. Dieu a fait le monde en 6 jours, il s'est arrêté le 7e. Donc, il y a une notion du sabbat où on a besoin de s'arrêter. Puis ça, c'est logique. Le corps a besoin de repos, la création a besoin de repos, les terres ont besoin de se reposer, on fait des tournus pour ne pas épuiser les sols. Donc, il y a besoin de s'arrêter. Donc ça, c'est la première notion créationnelle, le sabbat. Et la deuxième notion, tu peux mettre le suivant, c'est le repos, pas créationnel, mais le repos rédemptionnel. C'est la rédemption. Parce qu'il ne dit pas que tu t'arrêtes, parce qu'il faut que tu t'arrêtes, ton corps en a besoin, il dit qu'il faut que tu t'arrêtes pour te souvenir que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est vraiment la notion du sabbat, du repos, du Dieu qui sauve, du Dieu qui agit, le salut de Dieu qui se manifeste. Pendant plusieurs siècles, jusqu'à la rédaction du Nouveau Testament, jusqu'au temps de Jésus, le sabbat s'est développé dans ces deux directions. La cessation d'activité, il fallait s'arrêter un jour, donc c'est la dimension créationnelle, ne pas travailler, et on va y revenir. Et la deuxième dimension, c'est se tourner vers Dieu dans ce temps-là, lire la Torah, vraiment se souvenir de ce qu'il a fait, donc cette idée de la rédemption, souvenir qui est Dieu en fait, et ce qu'il a fait pour le peuple d'Israël. Et concernant le sabbat, dans cette première dimension qu'on a vue, la dimension créationnelle, il y a un ensemble de choses. La Bible finalement dit qu'il ne faut pas travailler, il faut s'arrêter. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire travailler ? Est-ce que mettre ses chaussures, c'est travailler ? Ou fabriquer des pièces pendant des heures, c'est travailler ? Vous voyez un petit peu, qu'est-ce que ça veut dire travailler ? Donc, en fait, les sages, les rabbins ont réfléchi à ces interdits et ils ont cherché à définir ce que constituait le travail. Alors, tu peux avancer. Et ils ont identifié 39 catégories fondamentales de travaux interdits. Alors, semer, labourer, moissonner, moudre, cuire, écrire, effacer, allumer un feu, éteindre un feu, on sent qu'on a une autre époque, hein. Construire, démolir, transporter un objet d'un domaine et d'un autre. On pourrait rajouter ne pas faire de la PS5, etc. Non, je rigole, je blague. Et pour éviter d'entrer dans cette dimension du travail, par respect pour la loi, pour vraiment faire... mettre en application ce commandement de ne pas travailler, les juifs, les sages, les pharisiens, on peut le dire aussi, ont développé ce qu'on appelle une haie de la Torah. C'est-à-dire qu'ils ont mis des limites avant pour éviter qu'on transgresse ce commandement. C'était par égard, par vraiment respect de la loi. Alors, je vous donne un exemple de haie de Torah qu'ils ont mis en place par rapport à ça. Les pharisiens, par exemple, vont dire qu'il est interdit de grimper à un arbre, car une fois dans l'arbre, vous pourriez avoir envie de couper une branche, qui est un travail. Ah, mon cerisier, je vais couper cette branche-là. Voilà. Donc, il interdit de grimper à un arbre. Ce n'est pas écrit dans la Torah, vous êtes d'accord, mais ils ont rajouté cela. Bref, ils ont rajouté beaucoup de commandements comme ça pour protéger, vous comprenez, le commandement du sabbat. Par exemple, une idée fausse, hein, faussement répandue, parce que Jésus va beaucoup guérir pendant le sabbat, c'est que les rabbins n'interdisaient pas toute guérison un jour de sabbat. Mais en revanche, les soins qui étaient moins urgents, qui pouvaient être reportés, eh ben, il ne fallait pas le faire le jour du sabbat. Et parce qu'on pouvait préparer un remède, et préparer un remède, préparer quelque chose pouvait être associé à du travail. Donc parfois, sauver une vie pouvait peut-être être en conflit avec le sabbat. Et ça, on va y revenir. Tu peux avancer comme ça, je peux continuer. Ce qui ressort maintenant, si on vient dans le Nouveau Testament, quand Jésus est confronté finalement avec le sabbat et avec les sages, les pharisiens particulièrement, les différents courants, c'est que Jésus, et retenez bien ça, ne s'oppose jamais au sabbat, comme je vous l'ai présenté dans les commandements, les 10 paroles. Jésus ne s'oppose jamais au sabbat. Il fréquente d'ailleurs la synagogue le jour du sabbat, il enseigne le jour du sabbat, qui est justement le côté rédemptionnel, il enseigne, il respecte ce commandement. Les conflits que Jésus a avec les pharisiens, ce sont sur les interprétations et les applications des règles pour protéger le sabbat. En fait, ce que Jésus conteste, c'est les haies de la Torah. C'est tout ce qui a été surajouté dans un bon désir, hein, c'est toujours un bon désir au départ, tout ce qui a été surajouté pour ne pas pécher contre ce commandement. Et c'est contre ça que Jésus va s'opposer avec les pharisiens. Donc Jésus respecte le fait qu'il faut s'arrêter, qu'il ne faut pas travailler, qu'il faut aussi savoir se poser. Jésus respecte pleinement cela. Mais je vais vous amener ce matin plus loin encore, parce que Jésus va plus loin que cela. Non seulement il conteste les haies de la Torah, mais il va aussi restaurer le sens plein du sabbat. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va faire Jésus ? Il va restaurer le sada rédemptionnel. C'est-à-dire, rappelez-vous, c'est quoi le sabbat ? C'est Dieu qui sauve son peuple. Souvenez-vous que vous avez été esclaves en Égypte et que je vous ai sorti, je vous ai libéré de l'oppresseur, Pharaon, je vous ai libéré de son armée et je vous ai sauvé. Et qu'est-ce que Jésus va faire très souvent un jour de sabbat ? Il va libérer, il va guérir, il va libérer les démonisés, l'oppression. C'est ce qu'il fait et il est en train d'appliquer pleinement le sabbat. En Luc 13, Jésus est en train d'enseigner un jour de sabbat. C'est le meilleur moment pour enseigner. Tout le monde arrête de travailler. C'est le meilleur moment pour ouvrir la parole ensemble. Et voilà qu'une femme courbée depuis 18 ans est là et il la guérit. Et qu'est-ce que dit le chef de la synagogue qui est indigné à ce moment-là ? Donc j'imagine qu'ils étaient dans la synagogue. Il y a 6 jours, il lui dit à Jésus, pendant lesquels il faut travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Sympa pour cette dame, hein ? Voilà, il dit non, il ne faut pas guérir ce jour-là. Jésus accomplit le véritable sabbat, qui n'est pas seulement la cessation d'activité, mais la libération de la maladie, du péché et de nos ennemis, le diable et ses anges. Parce qu'il va dire de cette femme qu'elle est liée par Satan depuis 18 ans. La plupart des mentions du sabbat dans les évangiles sont en lien avec une libération de la maladie ou de l'emprise démoniaque opérée par Jésus ce jour-là. Et tu peux montrer la slide suivante. Ça, c'est tous des textes où Jésus fait quelque chose et c'est spécifié, c'est un jour de sabbat. Un jour de sabbat. Voilà ce qu'il fait dans Marc. C'est à Capernaum, il chasse un démon dans une personne, dans une synagogue. Il guérit dans la foulée la belle-mère de Pierre. En Marc 3, il guérit un homme qui avait la main sèche dans une synagogue, un jour de sabbat. Il enseignait. Luc 13, par exemple, c'est la guérison de cette femme courbée dont je vous ai dit. Luc 14, guérison d'un malade. Jean 5, guérison d'un homme malade depuis 38 ans. Jean 9, guérison de l'aveugle, d'un aveugle qui était aveugle depuis la naissance. Et tout ça, ce sont des jours de sabbat. Tu peux avancer. Mais Jésus non seulement ne remet pas en question le commandement du sabbat, mais il le dépoussière finalement de tout ce que les hommes ont rajouté, qui est peut-être même oppressant, tellement ils en ont rajouté. C'est devenu même écrasant, pas du tout reposant du coup. Mais en plus, Jésus vient rappeler la véritable promesse du vrai repos selon Dieu. C'est Dieu nous libère. C'est la fin de l'errance du peuple d'Israël dans le désert. C'est le pays promis que Dieu donne à son peuple. Le pays où coule le lait et le miel. Le pays qui lui appartient. Plus besoin d'être toujours sur les routes. Toujours jamais arrivé. Jamais chez soi. Je parlais avec quelqu'un qui est tout le temps sur les routes. Il me disait, c'est fatigant des fois. On est invité dans telle église, c'est un ministère itinérant. C'est fatigant, on ne peut jamais poser ses valises. On n'est jamais chez soi. On est toujours bien accueilli par les gens, mais on n'est jamais chez soi. Et voilà que Dieu a donné un pays à ce peuple, l'a libéré de l'esclavage, et il lui a donné un pays pour se reposer, pour poser ses valises. C'est ça le sens du repos. C'est ce que Dieu a fait pour le peuple d'Israël. Et il l'a délivré de ses ennemis. Alors bien sûr qu'ils ont mis du temps à y entrer dans ce repos, puisqu'ils ont refusé à un moment donné d'entrer dans ce repos. Hein, comme le dit le psaume 95, ils ont erré 40 ans dans le désert par désobéissance. Et Dieu a dit, je jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Voilà, ils n'ont pas saisi ce repos. Hein, on y reviendra à cette notion de saisir ce repos. Mais ce n'est pas parce que ça a été un échec dans l'Ancien Testament, ce repos rédemptionnel, qu'il l'est tout le temps. Et on voit que Jésus est annoncé dans tout l'Ancien Testament. C'est l'ère messianique. Le Messie viendra. Et il habitera au milieu des hommes. Et il fera entrer le peuple d'Israël, et nous par extension, les non-juifs, dans le vrai, le véritable repos. Amen. Et c'est tout ce que dit Hébreux 4. C'est toute la notion dans Hébreux au chapitre 4 et le chapitre 3 aussi. Il parle de ce véritable repos qu'il veut donner au peuple de Dieu que nous sommes. Et il parle que la clé pour entrer dans ce repos, c'est la foi. C'est la foi. C'est d'entrer par la foi en Jésus. Parce que celui qui est le vrai maître du sabbat, celui qui accomplit le sabbat, celui qui en donne l'interprétation juste, c'est Jésus. Jésus va même déclarer, dans un contexte de sabbat justement, qu'il est le maître du sabbat. Et ça revient dans les trois évangiles synoptiques. C'est important, ça veut dire. C'est important, si les trois l'ont relevé. Il va le dire dans Marc, au chapitre 2, verset 28. Le Fils de l'homme est le maître et le Seigneur du sabbat, puisqu'il est Dieu. Il est Dieu habitant au milieu des hommes. Et il remplit le sabbat. Jésus n'est pas venu abolir la loi, il est venu la remplir, l'accomplir. Et il accomplit pleinement, il accomplit toutes les fêtes juives, il accomplit toute la Torah et il accomplit pleinement le sabbat. Et ces pharisiens ne vont pas le supporter. Et les pharisiens vont vouloir, et les opposants, pas que les pharisiens, hein, les religieux, vont s'opposer à Jésus parce que, pas seulement parce qu'il se fait Dieu, mais parce qu'il se dit... Il remplit ce sabbat pleinement et ça, il ne supporte pas. On le verra suite à la guérison d'un jour de sabbat. Dans Marc 3, au chapitre 3 et au verset 6, il est dit que les pharisiens vont s'allier aux Hérodiens pour faire mourir Jésus. Parce qu'il guérit le jour du sabbat, il accomplit. C'est insupportable. Vous comprenez, pour un esprit religieux, il libère des gens de la maladie. Il les rend libres. C'est insupportable. Pour l'esprit religieux, c'est insupportable pour le monde démoniaque, ça, de rendre libres les gens, de les rendre complètement heureux, libérés de toute oppression. C'est insupportable pour l'esprit religieux. Et c'est pour ça qu'ils veulent tuer Jésus. Et c'est également dans un contexte similaire où Jésus, juste avant d'ailleurs, sur le jour de sabbat où il guérit, que Jésus va enseigner, va donner le seul texte sur le repos. Le seul texte du Nouveau Testament, le seul enseignement de Jésus sur le repos, c'est dans Matthieu, au chapitre 28 et les versets, au chapitre 11, pardon, les versets 28 à 30. Tu peux mettre le texte, on va lire ensemble. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. L'invitation de Jésus est une invitation à suivre ses instructions, mais c'est plus qu'à suivre un enseignement, c'est à entrer dans une relation avec lui. Il parle du cœur. Je suis doux et humble de cœur. C'est d'entrer dans une relation intime avec lui. Le repos promis par Jésus est intimement lié à sa personne. Le disciple va recevoir de Jésus lui-même ce nouveau Moïse, qui accomplit pleinement le sabbat. Ce Dieu qui sauve qui est là, dans cet homme. Le véritable serviteur de Yahvé qui est décrit dans Ésaïe. Celui qui accomplit la promesse qui a été faite au peuple d'Israël dans Jérémie 6, verset 16. Vous trouverez le repos pour vos âmes. C'est lui qui accomplit cela. J'aimerais terminé, mais ce sera une longue conclusion, je vous rassure. Tu peux mettre la suite. Parce que j'aurais pu développer sur le sabbat. Il y a tellement de choses à dire. Mais j'aimerais venir sur Jésus parce que je pense que c'est la clé de compréhension. Je pense qu'il est nécessaire, plus que jamais, surtout dans nos sociétés occidentales, d'entrer dans un repos créationnel, comme le sabbat nous invite. Le corps a besoin de repos, mais nos pensées ont besoin de ne pas tout le temps tourner, la charge mentale. Nos émotions aussi. Alors on peut être tout le temps dans une boucle sans fin et il y a besoin d'y mettre des limites. Et ça, c'est le sabbat créationnel. Et ça, je vous laisse y réfléchir. C'est à vous, avec le Saint-Esprit, de trouver qu'est-ce qui vous convient. Mais là où j'aimerais insister ce matin, vraiment, c'est que le véritable repos ne vient pas que de cela. Vous savez, il y a des gens qui prennent 10 semaines de vacances, ils sont encore fatigués. Vous pouvez en prendre autant si vous n'entrez pas dans ce sabbat rédemptionnel, dans une véritable union et communion avec le Christ. Alors, vous allez continuer à porter des jougs que le Christ ne vous demande pas de porter. Vous allez continuer à apporter des choses tellement lourdes par rapport au joug que Jésus vous demande de prendre, qui est léger. Et ça, c'est un vrai processus dans nos façons de faire et nos façons de penser, dans nos façons de vivre notre relation à Jésus. Est-ce que Jésus me demande vraiment de prendre ce joug-là? Est-ce que vous lui posez ce genre de questions? Vous savez, des fois, on vit des temps de prière, on sort et on refonctionne exactement de la même manière. On repense exactement de la même manière alors qu'on vient de passer une heure avec le Seigneur ou une demi-heure. On est dans des boucles, dans des fonctionnements, dans une façon de penser, des mensonges qui sont des jougs que Jésus ne nous demande pas de porter. Et tous ces jougs, Dieu veut nous en libérer. Alors on ne peut pas vivre sans joug. On est toujours l'esclave de quelque chose. Mais nous préférons être esclaves de Christ que esclaves du Pharaon. Vous êtes d'accord? On préfère être esclaves du Christ parce qu'il est doux et humble de cœur. Le Pharaon, il est dur. Il nous en demandera toujours plus. C'est jamais gratuit. Et Jésus veut nous rendre libres. C'est extraordinaire. C'est ça le vrai repos. La vraie liberté. Jésus veut nous rend libres de toute oppression humaine, spirituelle, démoniaque, même physique. C'est le véritable sabbat. Saint Augustin, au IVe siècle, va dire la chose suivante. Tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos jusqu'à temps qu'il repose en toi. Je redis. Tu nous as fait pour toi et notre cœur est sans repos jusqu'à temps qu'il repose en toi. La communion avec Dieu, la liberté vis-à-vis du péché et la liberté vis-à-vis de nos oppresseurs sont la véritable source du repos. Vous êtes déjà posé la question, est-ce que Adam et Ève étaient fatigués dans le jardin d'Éden? Est-ce qu'ils avaient 5 semaines de vacances? Est-ce qu'ils avaient les week-ends? Parce qu'ils travaillaient, hein, je vous rappelle. Il a demandé de cultiver et de garder le jardin. C'est du job. Peut-être que c'était un très grand jardin, je ne sais pas, on ne sait pas, on ne connaît pas les dimensions. Mais est-ce que vous pensez qu'est-ce qu'ils avaient mis en place? Est-ce que vous pensez qu'ils étaient enclins et sujets au burn-out? Est-ce qu'on en parlait déjà à ce moment-là, vous pensez? Moi, je pense qu'ils n'étaient pas fatigués, hein, c'est le jardin d'Éden, le jardin de délices, pour deux raisons principales. Un, communion avec Dieu, totale. Et deux, ils ne péchaient pas. Alors bien sûr qu'après ça s'est compliqué, on connaît l'histoire. Vous savez comment ça s'est compliqué? C'est qu'il y a eu une pomme, deux poires et des pépins. Il fallait que je la place celle-là. Ils étaient en communion avec Dieu et ne pratiquaient pas le péché. Et c'est vers cela que nous tendons. C'est ça la sanctification. Jésus, nous lui laissons plus de place, c'est-à-dire nous le laissons plus au contrôle de nos vies et nous voulons moins faire avec nos réactions humaines, nos blessures et notre péché et plus le laisser remplir notre cœur, notre vie. On n'a jamais autant parlé de méditation aujourd'hui parce que les gens sont tellement stressés qu'on entend partout, hein, méditation, voilà, faut trouver... Moi, je connais plein de gens, ils font de la méditation. Ils ne sont pas chrétiens, hein, ils font de la méditation. Mais moi, je me dis, mais On a tellement de traditions chrétiennes qui parlent de méditation. Qu'est-ce qu'on va chercher dans le monde ? Ce qui est déjà là. Il y a tellement de méditations. Souvent, ces méditations, des fois, ne nous rattachent pas à Christ. Des fois, c'est juste la simple méditation. Mais des fois, c'est craignos spirituellement. Des fois, ça, on nous parle d'énergie, de choses. Et là, il y a Jésus qui veut se connecter à nous. On a vraiment quelqu'un qui est là à disposition 24-7. 24-7. Et on ne saisit pas de nous connecter et d'entrer dans ce repos qui est là. Dans la tradition orthodoxe, tu peux mettre, les moines travaillaient continuellement leur union à Jésus. Par exemple, il y avait l'hésychasme, c'est la prière du cœur et le silence intérieur. C'était toutes des pratiques, des disciplines spirituelles pour travailler cette union à Christ. Et la théosis aussi, c'est la déification de l'être humain par la grâce. Alors, on ne devient pas Dieu, hein, c'est pas ça. Mais Dieu prend plus de place en nous. C'est ça, l'idée de déification. Mais si, par exemple, on va dans la tradition occidentale, tu peux mettre la suivante. Il y a une tradition occidentale qui s'appelle la Gelasenheit. Vous avez déjà entendu parler de ça ? Ah, vous n'êtes pas de tradition mennonite, alors. J'ai découvert ça dans un cours avec les mennonites. Ça vient du verbe allemand lassen, qui est laisser. Ça désigne un état de calme profond, de sérénité intérieure et de lâcher être, lâcher prise. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est rester maître de ses émotions, d'accepter les situations hors de contrôle et de cultiver une confiance inébranlable dans le présent. Parce que c'est ça la difficulté, notre passé et notre futur. Il y a trois piliers dans la Gelassenheit. C'est le lâcher prise, accepter que ce qui ne peut être changé, il y a des choses qu'on ne peut pas changer, et libérer l'esprit des tensions superflues. Il y a la notion de présence, se détacher des regrets du passé et de l'anxiété liée au futur pour vivre pleinement l'instant présent. Alors tout ça, c'est connecté avec Jésus, hein, bien sûr. Hein. Et il y a l'acceptation, troisième pilier, accueillir des défis avec recul en évitant les réactions impulsives ou le stress. Et cette tradition, c'est des courants mystiques rhénans qui ont développé ça, qui a été reprise chez les mennonites, qui a été même un peu reprise de manière différente dans certains groupes anabaptistes. On pense notamment aux Amish, les mennonites. Ça désigne, ils l'ont reconverti dans la notion d'humilité et de la soumission à Dieu et l'acceptation de la communauté. Le repos, il est là. Et Dieu nous demande d'y entrer. Et pour y entrer, nous devons exercer notre foi. Notre foi en Jésus, c'est la clé qui ouvre à l'accès. Rappelez-vous, le peuple d'Israël n'a pas pu entrer dans le pays promis, le pays du repos, et remporter la victoire sur ses ennemis à cause de l'incrédulité. Notre union à Jésus est un chemin de foi. On le choisit, on lui fait confiance chaque instant, tous les jours, dans toute situation. Un chemin de confiance. Toujours nous remettre sous son joug et sortir des jougs qui viennent si facilement nous enlever notre paix intérieure, notre assurance. Notre repos va prendre la forme d'une paix. Comme une bouteille qui est remplie, tellement remplie de la présence de Dieu, tellement détachée de tout ce qu'on a pu enlever. Vous savez, la bouteille remplie, vous la secouez dans tous les sens, elle n'est pas agitée. Mais si elle est à moitié remplie, vous la secouez, elle est agitée, vous êtes d'accord ? Donc, tellement remplie, une paix tellement là, une assurance, une vie dans sa grâce, dans la présence de Dieu, une détente de l'âme, on pourrait dire, libérée des contingences extérieures. Et ça, c'est un chemin de foi, mes amis. C'est un choix. La foi, c'est entrer. Entrer dans ce... Faire le choix. Sans faire le choix, on n'y entre pas. Mais c'est à disposition. C'est là. tous les jours, 24/7. Et Jésus le fait tellement de fois, ce genre de lien entre la foi et le repos. Il va dire, mais la foi ne s'inquiète pas du lendemain, dans Matthieu 7. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Toutes choses vous seront données en plus. Le royaume de Dieu, c'est la présence de Dieu qui s'offre à nous. Parce que petit à petit, dans nos vies, notre paix est grignotée, notre assurance est grignotée par tous les soucis du quotidien. Toutes ces petites choses, vous savez, comme il dit, ces petits renards qui, dans l'Ancien Testament qui viennent et qui font des petits trous et petit à petit, sans qu'on s'en rende compte, eh ben, brique après brique, on s'éloigne de ce Dieu qui nous offre ce repos en lui. Et on s'appuie sur d'autres choses que lui, sur nous-mêmes. Et le creuser se fausse entre nous et Dieu, de plus en plus. Et on ne s'en rend des fois pas compte. Et notre cœur commence à devenir dur. Dur, et on n'entend plus Dieu nous parler. On n'entend plus Dieu nous dire des choses. Alors qu'il est là et qu'il nous invite à entrer dans ce repos en lui. Alors attention à ce danger. Dieu nous rappelle de nous positionner par la foi. Entrer dans ce repos en lui. Cet appel à se confier dans le Père est tellement bien illustré, et je terminerai avec ça, par Jésus dans la barque. Vous ne trouvez pas ? C'est tellement incroyable. Jésus est tellement en communion avec son Père. Il est tellement là où il doit être. Il n'a pas pris un autre chemin qu'il n'aurait pas dû prendre, un autre joug, soi-disant un raccourci pour nous faire gagner du temps. Non, non, il a pris, il est là où Dieu veut qu'il soit. Et il est dans la barque. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il dort profondément. Il dort profondément. Alors que quoi ? Qu'est-ce qu'il y a autour de lui ? Il y a la tempête. Et c'est tellement une image pour nous, mes amis. C'est tellement une image qui me frappe de dire, mais Dieu ne va pas t'enlever la tempête. Dieu ne va pas t'enlever tes problèmes. Mais Dieu t'invite à être tellement ancré en lui, à être tellement dans la Gelesenheit avec lui, dans ce lâcher-prise où c'est lui qui est au contrôle, que tu peux dormir dans la tempête. Tu peux dormir alors qu'il y a de l'opposition, alors que ton patron toxique te pourrit la vie. Ton mari, jamais nos épouses, mais toujours les maris, toxique qui pourrit ta vie, ou ta situation, impossible de t'en sortir. Alors des fois, bien sûr qu'il faut prendre de la distance, bien sûr que des fois, voilà, il y a des choses à décider, je ne suis pas en train de dire ça, mais dans les situations les pires que vous avez, Dieu est là. Et on peut s'appuyer en lui. Voilà que Jésus va leur dire, va se réveiller et va dire à ses disciples, mais pourquoi avez-vous peur, hommes de peu de foi ? Il leur dit ça, la foi. Hommes de peu de foi. Et la foi, c'est quelque chose qu'on doit développer dans notre relation avec Dieu. Renforcer notre foi, nous appuyer sur lui, lui faire plus confiance. Et les peurs, elles sont là. Les angoisses, elles sont là. Les anxiétés, elles seront là. Toujours. Mais si notre foi se raffermit, si notre communion avec Dieu se renforce, alors notre foi sera plus grande. Et nous pourrons, à l'image de notre Sauveur, Jésus-Christ, dormir dans la tempête. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, on est d'accord. On la connaît, la théorie, mais c'est une invitation. C'est une invitation que je vous donne à nous rappeler que le repos est possible en Jésus. Il a tout accompli pour que ce soit possible. Il a tout fait de son côté et il nous attend. Il nous attend. Il nous attend avec impatience. Prions. Seigneur, merci pour ta paix. Merci parce que j'aurais tellement voulu marcher avec toi dans ces rues de Jérusalem. Voir comment tu gérais la foule, comment tu gérais ton emploi du temps, comment tu gérais ton stress, comment tu gérais les multiples demandes, les incessantes pressions. Mais merci Seigneur parce que tu ne nous as pas laissés orphelins ce matin. Tu nous as donné ton esprit qui nous rappelle les paroles de Jésus, qui applique dans nos cœurs les paroles de Jésus. Seigneur, je te confie nos vies. Je te confie ici, qu'on soit jeune ou moins jeune, on a tous des jougs qu'on porte. Je te confie nos jougs. Viens nous en délester. Par ta puissance, par la puissance de ton esprit, par la douceur de ton caractère, viens faire cette œuvre dans nos vies. Merci déjà pour tous ceux qui l'ont déjà expérimenté. Tellement de gens ici, dans cette salle, l'ont déjà expérimenté, l'ont déjà partagé. Continue, Seigneur, à faire ton œuvre. Nous voulons continuer aussi en tant que peuple de Dieu à entrer dans ton repos, dans les projets que tu as pour cette Église. Pas de courir à gauche, à droite, faire ce que les autres font, mais faire ce que toi, tu nous demandes de faire en tant qu'Église. Et entrer dans les œuvres que tu as préparées pour cette Église. Parce qu'en pratiquant ces œuvres, nous le ferons avec paix, avec repos. Amen.